De même que nous avons une musique concrète, une peinture antifigurative, une allitérature est née avec pour programme la spoliation de l'esprit. S'il ne s'agissait que d'une revanche de raté face à un corps, mais il est intolérable de voir le talent cautionner de telles exhibitions. Regardez le cas de Michel Butor. Michel Butor a débuté par un roman, un peu lent bien sûr, qui s'appelle La Modification, où pendant une nuit, en chemin de fer, un monsieur réfléchit pour savoir s'il restera fidèle à sa femme ou s'il ira rejoindre sa maîtresse en Italie. Or, il est en route pour l'Italie. Finalement, l'épouse l'emporte, vous voyez, c'est même un roman moral. L'épouse l'emporte et il revient. Et ce sont les 24 heures de cette nuit, qui n'est pas tout à fait une nuit conjugale, mais qui est tout de même, dans une certaine mesure, une loi, une nuit du respect des lois conjugales. Il y a là quand même une action, une méditation. L'essentiel du roman, elle est justement dans la durée, mais on peut trouver la marche extrêmement lente, mais il y a là, évidemment, un assez bon roman. Et même, si vous voulez, une recherche technique intéressante, tant qu'elle se maintient dans ces limites-là. Monsieur Michel Butor a continué par un roman, si c'est tenté que ce soit un roman, mais alors, beaucoup plus étrange. Je l'ai lu, et je l'ai même relu. Ce roman peut être assez passionnant, mais comme on voit qu'il entraînait son auteur sur une mauvaise pente. Ce roman s'appelle Degré. Et dans Degré, il invente la reconstitution totale d'une heure de cours dans une classe de seconde A à Paris le 12 octobre 1954. C'est-à-dire l'état présent de l'existence de 11 professeurs et de 31 élèves en ce moment précis de la durée. Ou encore, ce qu'il veut bien appeler, c'est en quelque sorte... Il le dit d'ailleurs lui-même, l'espace mental de l'université. Et il est obligé par conséquent de reconstituer toute l'histoire intime de 11 professeurs et de 31 élèves, et naturellement tous ces événements s'entrecroisent, et c'est cet enchevêtrement subtil qu'il prétend exprimer dans 230 à 250 pages. Remarquez d'ailleurs qu'il fait beaucoup d'honneur à l'université et à son espace mental, parce qu'à ce moment-là, on a très exactement l'impression, tant il a de mal à étreindre cet espace mental, et pour cause que son centre est partout et sa circonférence nulle part. C'est, vous le savez, la définition mémorable que Pascal donnait de Dieu. Remarquez que l'auteur a heureusement choisi la date, parce qu'enfin, encore en 1954, nous n'étions pas arrivés à la démocratisation parfaite de l'enseignement. Avec sa famille, accroupis l'un près de l'autre, ils ne se disent rien. Il ne bouge pas. Le silence doit se prolonger jusqu'à la limite du spectateur. Après quoi, le lecteur commente ainsi. J'ai vu représenter la pièce à Paris. C'est un moment de théâtre extraordinaire et d'une audace bouleversante. C'est la première fois dans l'histoire du théâtre qu'on levait le rideau et que, le rideau levé, il ne se passait rien. Il y a là quelque chose qui vous prend à la gorge. C'est le néant de l'homme. Soudain, son inutilité, son vide, c'est d'une profondeur vertigineuse. Cet enchevêtrement subtil, c'est, vous le savez, la définition mémorable que Pascal donnait de Dieu. Remarquez que l'auteur a heureusement choisi la date, parce qu'enfin, encore en 1954, nous n'étions pas arrivés à la démocratisation parfaite de l'enseignement. C'est-à-dire que la classe n'avait que 31 élèves. Aujourd'hui, dans le même lycée, elle a là le double ou le triple, n'est-ce pas? Alors c'est un vrai travail d'Hercule. Et ce travail serait achevé par un désastre prométhéen. Remarquez du reste qu'il en coûte la vie au professeur, qu'il entreprend avec la complicité de son neveu, lequel est en même temps son élève. La durée romanesque se trouve ainsi triturée à la manière d'une pâte qu'on ne se déciderait jamais à mettre au four. Et c'est tout juste si le client qui attend son dessert ne meurt pas en même temps que le pâtissier. C'est curieux, ou extrêmement curieux, mais c'est très déroutant. Et il faut disposer d'un métier singulièrement habile pour rétrécir et dilater à la fois l'espace et le temps. Mais alors, nous assistons aujourd'hui alors au scandale pur et simple. avec l'énorme ouvrage que vous pouvez voir ces jours-ci en librairie, publié par M. Michel Butor sous le titre de Moby. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, cela, c'est... On ne sait pas. C'est un ensemble. C'est un ensemble, faut-il dire, de notes, de documents, de réflexions, un ensemble de débris empruntés à 6 mois d'existence en Amérique et qui, dans leur désordre, échelonnés à 350 ou 400 pages, doivent donner l'idée d'une durée américaine. Il y a là des bouts de programme, des morceaux de menu, des réclames empruntées à droite et à gauche, des dessins publicitaires. Vous me direz que c'est peut-être la méthode d'enseignement qui prévaut aux États-Unis. Non, elle n'y prévaut plus, car les États-Unis sont revenus, Dieu merci, aux traditions de l'humanisme. Elle commence à prévaloir chez nous, car vous savez bien que la France est le bout en train du progrès, n'est-ce pas? Et alors, M. Michel Butor a tout simplement nous offre un véritable scandale, mais un scandale peut-être encore plus grave qu'un scandale moral, parce que c'est un scandale intellectuel. C'est le refus absolu de l'esprit de composer, de synthétiser, d'exprimer et de conclure. Et il s'en vante. Et il est heureux de cette dispersion. Il est heureux de cette désintégration. Et il donne cela comme le modèle de la littérature de demain. Et alors, ce qu'il y a de curieux, c'est l'ahurissement total de la critique, qui n'avait rien compris au progrès, ou plutôt au recul, ou à l'évolution. L'évolution régressive, c'est le cas de le dire, n'est-ce pas ? L'évolution régressive qui se manifestait de la modification à degré et de degré à mobile. Mais le problème est extrêmement simple. Je pense que vous avez lu, ou vous avez dans vos bibliothèques, ce roman qui fut le dernier de Flaubert, et qui tua d'ailleurs le romancier, Bouvard et Pécuchet. Flaubert a voulu faire le roman de la bêtise intégrale, de la bêtise circulaire, de la bêtise totale, d'une bêtise qui est presque extraordinaire, enfin qui est presque géniale en quelque sorte, parce qu'il n'y a jamais de bêtise absolument fermée. Un sot est, a des éclairs d'intelligence, et un homme intelligent a quelques trous de sottise, n'est-ce pas? Mais une bêtise totale, une bêtise finie, une bêtise parfaite. Il en est mort, Flaubert. Il en est mort, très exactement. Il a voulu faire, n'est-ce pas, on voit bien, n'est-ce pas, une sorte d'apothéose de la stérilité. Et c'est pour ça qu'il a marié deux hommes, qui naturellement ne peuvent rien produire. Mais alors, ces deux hommes, Bouvard et Pécuchet, regardez leur nom, d'ailleurs. Bouvard, Bos Bovis, Pécus, Pécudis, n'est-ce pas, c'est éclatant, déjà. Mais Bouvard et Pécuchet ont l'idée de faire un roman. Et alors c'est ceci qui est, si vous voulez, ou bien hilarant, ou exaspérant, ou consternant, selon l'humeur dont vous vous sentirez. Michel Butor, qu'il l'ait voulu ou non, s'il l'avait voulu encore, ce ne serait que demi-mal, parce qu'il nous aurait attrapés, il nous aurait fait une splendide farce, et il se frotterait les mains maintenant, n'est-ce pas, de voir que tant de jobards ont marché. Mais je ne crois pas qu'il l'ait voulu. Je crois qu'il est véritablement conscient, n'est-ce pas, de ce qu'il croit être, lui, un progrès. Il a exactement, pour composer son mobile, utilisé la tactique imbécile de Bouvard et Pécuchet, qui ne savent pas trop ce qu'ils vont mettre dans le roman, mais qui accumulent des documents. Naturellement, ils ne savent pas quoi en faire. Ils ne savent pas composer. Ils sont incapables de prononcer entre la valeur de tel ou tel document. Alors, ils accumulent, et leur roman sera terminé, et quand ils auront une foule de documents absolument disparus. Voilà où nous en sommes, mesdames et messieurs. Et je crois bien que je n'avais pas tort d'appeler cela l'obscénité de l'esprit. Eh bien, je voudrais que la critique d'aujourd'hui, se renseigne et me renseigne sur les chances de cette nouvelle école, sur sa signification à l'an de grâce 62, et surtout sur l'avenir du roman ainsi coincé entre deux ateliers. La salle de bain, où l'héroïne des merveilleux nuages donne ses rendez-vous d'amour, alors là, pas de difficulté intellectuelle, tout le monde quoi? 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 Pas de difficulté intellectuelle, tout le monde quoi?
Remarquez que
Il en va de même au théâtre. Vous pouvez, dans la même semaine, aller applaudir Patate de Marcel Achard, qui ne vous donnera certainement pas de fatigue intellectuelle, Beckett de Jean Anouilh et Va-t'en donc chez Thorpe de François Billedoux. Le même dramaturge peut résumer à lui tout seul les transitions mises à rebours. Eugène Ionesco est en effet passé de la pièce hermétique La cantatrice chauve au Rhinocéros, qui est beaucoup plus compréhensible et qui du reste est une pièce fort intéressante, et nous souhaitons bien entendu de tout cœur que s'il lui prenait fantaisie de composer une patate, celle-ci lui demeure sur l'estomac. Mais enfin, si j'interroge la jeune critique, la critique dont M. Claude Mauriac est le brillant chef d'orchestre, celle qui tenait représentée par M. Roland Barthes, serait tentée d'appliquer aux formes littéraires, jusqu'ici réservées au public cultivé, les définitions d'alchimie, de magie, par quoi, n'est-ce pas, les théoriciens de la poésie surréaliste expliquent la démarche poétique, eh bien, je découvre que M. Roland Barthes, essayant d'analyser le roman d'Alain Robbe-Grillet, Le Voyeur, vous savez que dans ce roman, on apprend qu'à peu près à la dernière page, qu'il est question d'un meurtre. En effet, on ne voit pas l'assassin. On doit arriver à la conception de ce meurtre et à la poursuite de l'assassin simplement par la description, l'étude des objets. Des objets. Car l'homme, le coupable, n'est-ce pas, qui a le tort d'être un individu pensant et agissant, est expulsé de l'œuvre. Imaginez par exemple ce que serait le roman Dostoïevski si on en enlevait Raskolnikov. N'est-ce pas ? Eh bien, étudiant un roman qui est de la même école, Le Voyeur d'Alain Robbe-Grillet, voici comment s'exprime M. Roland Barthes. Je vais le citer textuellement, et quand vous m'entendrez le citer, vous vous rappellerez que le premier livre de ce critique était intitulé « Le degré zéro de l'écriture ». C'est en effet la note que mérite son propre style. Donc, c'est un livre qui ne peut se soutenir que comme exercice absolu de négation. Et c'est à ce titre qu'il peut prendre place dans cette zone très mince, dans ce vertige rare où la littérature veut se détruire sans le pouvoir et se saisit dans un même mouvement détruisante et détruite. Détruisante et détruite. Et dire qu'on a disputé Spinoza parce qu'il parlait en latin de nature naturante et de nature naturelle. Peu d'œuvres entrent dans cette marge mortelle, mais ce sont sans doute aujourd'hui les seules qui comptent, celles qui se détruisent. Dans la conjoncture sociale des temps présents, la littérature ne peut être à la fois accordée au monde et en avance sur lui, comme il convient à tout art du dépassement, que dans un état de pré-suicide permanent. Elle ne peut exister que sous la figure de son propre problème, châtieuse et pourchasseuse d'elle-même. J'ouvre ici une parenthèse. Vous voyez, disons-le en passant, que Jean Anouilh exagère à peine dans sa parodie de l'antithéâtre, car de même qu'il y a une littérature, il y a un antithéâtre. Cette parodie qu'il vous donne dans sa pièce L'Hurluberlu, vous savez qu'il est question dans cette pièce, dans la pièce d'Anouilh, n'est-ce pas, d'une représentation qu'on doit donner dans le parc du général qui s'ennuie et qui charmer ses loisirs, veut avec sa famille monter une pièce. Alors il a hésité entre la pièce très, non seulement très convenable, mais très classique, proposée par monsieur le curé, au bénéfice duquel d'ailleurs des œuvres duquel doit se donner la cérémonie, mais il ne s'en souvient plus. Et puis alors, le fiancé de la fille du général, qui lui fréquente les milieux évolués de la littérature, fait de la réclame et du battage pour ce chef-d'œuvre de l'antithéâtre qui s'appelle Zimboum. Ou Julien l'apostat. Demandez le rapport. Moi aussi. Et alors, vous voici, je cède la parole à Anouilh, j'ai beaucoup plus récréatif que Roland Barthes. En scène, alors dit le jeune homme qui présente sa pièce, en scène, les deux protagonistes, Julien et Apophasie. Ils sont assis par terre, accroupis l'un près de l'autre. Ils ne se disent rien. Ils ne bougent pas. Le silence doit se prolonger jusqu'à la limite du spectateur. Après quoi, le lecteur commente ainsi. J'ai vu représenter la pièce à Paris. C'est un moment de théâtre extraordinaire et d'une audace bouleversante. C'est la première fois dans l'histoire du théâtre qu'on levait le rideau et que, le rideau levé, il ne se passait rien. Il y a là quelque chose qui vous prend à la gorge. C'est le néant de l'homme. Soudain, son inutilité, son vide, c'est d'une profondeur vertigineuse. Et vous savez comment se termine la scène ? Ça, c'est le théâtre de demain. Après quoi, le général éclate, dit « Alors, je reviendrai demain !»